Alors, si vous voulez, on va simplement lire les trois premiers versets du livre de l'Apocalypse ce matin. Alors, si vous voulez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Alors, je voulais vous asseoir. On va tout simplement terminer l'introduction. L'introduction, elle est un peu longue, mais d'un autre côté, c'est quelque chose de nécessaire qu'on fasse une vue d'ensemble du livre et des principales choses qu'on va y apprendre avant de commencer l'étude proprement dite des versets à la suite un de l'autre. Alors qu'on va passer tout le chapitre, tout le livre de l'Apocalypse, mais je pense que l'introduction est importante et qu'on la fasse. Alors, ce qu'on va faire ce matin, qu'on va réviser ce qu'on a regardé dans les deux leçons précédentes, qui était une introduction. Alors, dans l'introduction, il y avait cinq idées principales que je voulais regarder avec vous avant de commencer l'étude proprement dite des versets à partir du chapitre 1. Et les cinq choses étaient les suivantes. Je voulais regarder l'arrière-plan du livre. Comment dit l'auteur, les circonstances, la date de que ça a été écrit, l'auteur, qui était l'auteur, etc. La deuxième chose, on avait regardé, qu'on voulait regarder, c'est les caractéristiques du livre de l'Apocalypse. Et la troisième chose, c'était la théologie du livre de l'Apocalypse. Si je me souviens bien, c'est que on avait dit que ça c'était pas un livre qui développait des doctrines, mais c'était un livre qui était comme plutôt un développement des doctrines. Autrement dit, des doctrines sont déjà là. La Bible faisait tout simplement, le livre de l'Apocalypse faisait tout simplement aller un peu plus loin. Donc, c'est un approfondissement des doctrines. C'est pas un livre dans lequel des doctrines sont développées. Et la quatrième chose, on avait regardé un petit peu la semaine dernière les principales écoles d'interprétation. Pas qu'on veut rentrer dans les détails de ça, parce que c'est un sujet presque illimité à la quantité de livres qu'il faudrait lire pour être au courant de tout ça, mais au moins qu'on sache qu'il y a différentes écoles pour que si jamais vous tombez sur un livre qui ne dit pas la même chose que nous, bien, que vous sachiez qu'il y a des écoles différentes qui pensent différemment dans le monde. Et la cinquième idée qu'on voulait regarder, c'est la valeur actuelle. Autrement dit, l'Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit pour les chrétiens du premier siècle, qui vivaient des circonstances bien particulières. Pour eux, ça avait un effet d'encouragement, un effet de compréhension de ce qui se passait à leur époque. Et ça là, quand on dit valeur actuelle, c'est que pour nous, aujourd'hui, au 21e siècle, quelle valeur l'Apocalypse nous enseigne. Autrement dit, quand le Seigneur écrit un livre par l'inspiration, par le Saint-Esprit, il permettait que les gens qui entendaient ce message-là au premier siècle, qui vivaient des circonstances bien particulières, que ça ait un effet sur leur âme à eux. Mais, premier siècle, deuxième siècle, peu importe le siècle, le Seigneur a écrit l'Apocalypse pour que ça ait un effet sur les âmes de tous les croyants de toutes les époques, y compris nous. Donc, l'Apocalypse a été écrit aussi pour nous. Alors, on va regarder un petit peu pourquoi on pense que l'Apocalypse, quelles sont les principales leçons que l'Apocalypse nous enseigne à nous aujourd'hui. Alors, on va tout simplement reviser un petit peu, très rapidement, ce qu'on avait vu jusqu'ici, pour qu'on puisse avoir une idée d'ensemble, et on va terminer aujourd'hui l'introduction, et à partir de la prochaine leçon, là on va commencer vraiment Apocalypse chapitre 1, et on va suivre ça jusqu'à temps qu'on ait terminé, donc on a pour un an, deux ans probablement. Alors l'Apocalypse, vous allez en entendre parler longtemps, comme on dit. C'est une bonne chose, parce que c'est un livre difficile à saisir. Donc on avait regardé l'arrière-plan, On va les réviser rapidement. Le titre du livre, le mot Apocalypse, qui veut dire, très important, dévoilement. Alors, l'Apocalypse, c'est un livre qui veut dire que on dévoile une personne. On dévoile la personne de Jésus-Christ. Jusqu'à un certain... Plus on va comprendre l'Apocalypse, plus on va comprendre qui est Jésus-Christ, ce qu'il fait, ce qu'il a fait au cours des siècles, ce qu'il fait présentement et ce qu'il va faire pour mener son Église jusqu'à terme, jusqu'au bout. Donc l'Apocalypse, c'est vraiment l'idée, c'est une révélation. En anglais, ça porte le nom de révélation. Alors c'est une révélation, c'est un dévoilement d'une personne. Plus on va connaître l'Apocalypse, plus on va connaître qui Christ est et qu'est-ce qu'il fait. Et plus on prend conscience de ça, plus on est sûr qu'on est sur le bon bord, qu'on est victorieux, puisqu'il est victorieux, nous sommes également victorieux. On avait regardé rapidement le contexte géographique. Ça se passait dans les villes où on mentionne. C'était des villes entre 150 000 à 200 000 habitants. Et c'était toutes des endroits où il y avait les fausses religions abondaient, il y avait beaucoup d'idolâtrie. Ça, c'était le côté géographique. Le côté historique, excusez. Alors, très important de comprendre leurs circonstances à eux au 1er siècle. Au 1er siècle, les empereurs romains commençaient à se prendre pour Dieu. Et ils exigeaient qu'on les adore. Alors, quelque part, c'est très important qu'on voit cet élément-là. Et c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui existait à l'époque et c'est quelque chose qui a tendance à revenir encore, beaucoup plus rapidement qu'on croit. Et le côté socio-économique, donc les conditions sociales de l'époque, il y avait beaucoup de débauches, d'immoralité dans ces villes-là. Et c'est important que l'apôtre venait dire à ces gens, « Faites attention, vous vivez dans un milieu où les tentations sont extrêmement nombreuses et très dangereuses pour vous entraîner dans des mauvaises voies. » Et le côté religieux, ben, c'était l'élément à comprendre pour comprendre ce qui se passait à l'époque. C'était vraiment le culte de l'empereur. L'empereur commençait à se prendre pour Dieu et à exiger de ses sujets qu'on l'adore. L'auteur humain de l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean, le même qui écrit l'Évangile selon Jean, le même qui écrit aussi les trois épîtres, 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, et l'Apocalypse, donc fait partie. Mais quand vous allez commencer à étudier des livres sur l'Apocalypse, il y en a qui vont contester le fait que c'était l'apôtre Jean, mais moi j'ai la conviction absolue que c'est l'apôtre Jean lui-même qui écrivait ces choses-là. Alors, les destinataires du livre, bien entendu, c'est les principales villes qui sont mentionnées dans les premiers chapitres et qui avaient... Jean les connaissait tous, ces églises-là, et il savait que ces gens-là avaient besoin d'être encouragés puis d'être rassurés. Alors, c'est ce qu'il a voulu faire. Donc, l'occasion et le but du livre, c'est vraiment la question du culte des empereurs qui faisait en sorte que les chrétiens de l'époque avaient besoin d'être... Donc on avait vu aussi que le but, il y avait un but immédiat. Le but immédiat, c'est que Jean écrivait à des gens du 1er siècle qui vivaient des problèmes bien particuliers et ces gens-là avaient des besoins. Alors c'était, on avait nommé 4 besoins. C'était d'avertir. Des fois, on a besoin d'être averti. Deuxièmement, c'était de préparer et de fortifier les chrétiens. Autrement dit, il écrivait à cette époque-là, mais autrement dit, c'était pour durer encore longtemps. C'est comme, tu as besoin de te faire dire en ce moment-là, ce que vous traversez à l'heure actuelle, c'est pas fini. Là. Vous êtes en train de rentrer dedans. Alors, il y avait besoin d'être fortifié puis d'être préparé. Et la troisième chose qu'il avait besoin, c'est d'être encouragé. Quand on vit des circonstances difficiles, nous, on ne sait pas, on n'a pas connu ça. En Europe, dans certains endroits, on lit le mercredi soir, notre soirée de prière, des certains endroits dans le monde où les chrétiens sont maltraités et sont persécutés. Nous, au Québec, là, les persécutions, il y en a eu, là, parce que quand vous regardez l'histoire du développement des églises locales au Québec, il y en a eu des persécutions. Les chrétiens sont encore, dans certains endroits, maltraités. Mais si vous comparez à ce qu'ils vivaient à cette époque-là, à te faire brûler vivant, à te faire manger par les lions, et des choses semblables, on vit dans la ouate, comparativement à un jour. Donc, il y avait pour but d'être encouragé, et il y avait pour but aussi d'être consolé. Bien entendu, quand tu te crois que tu appartiens au Seigneur, puis que tu ne vois pas nécessairement comment le Seigneur contrôle tous les événements, si tu le vois pas, là, tu es découragé. T'as rien qu'envie de broyer. Hey, le Seigneur nous abandonne. Fait que t'as besoin d'être consolé, de dire, oh, pense pas ça, parce que c'est pas ça qui se passe. Pense à plus long terme. Alors, c'est ça qui avait pour but d'amener l'Apocalypse. Et bien entendu, il y avait un but immédiat, c'est à celui qu'on vient de nommer, mais il y avait un but aussi permanent. Le but permanent, c'est d'encourager tous les chrétiens de toutes les époques. Parce que dans le temps, par exemple, de la Réforme, ils en ont traversé des choses extrêmement difficiles, eux aussi. Ils ont été emprisonnés, ils ont été battus, maltraités, et plein d'autres choses. Mais les chrétiens ont toujours utilisé l'Apocalypse comme étant un livre pour les encourager et pour faire les quatre choses qu'on vient de nommer, les avertir, etc. La deuxième chose qu'on avait regardée, c'était les caractéristiques de l'Apocalypse. On avait regardé les sources. Autrement dit, où on croit que Jean a léché son matériel, bien entendu, il y avait les révélations personnelles que Dieu lui donnait. Il y avait l'Écriture sainte aussi, de l'Ancien Testament. Dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées qui viennent de l'Ancien Testament, de plusieurs livres en particulier, surtout les livres de nature prophétique, Zacharie, Daniel, etc. C'est important. Et il y avait toute la littérature apocalyptique de l'époque. Et chose importante aussi à savoir pour le livre de l'Apocalypse, c'est qu'il y a trois. Quand on étudie un livre, n'importe quel livre des Écritures, on a besoin de savoir quel genre littéraire. Parce que dans la Bible, il y a de la prophétie, il y a des lettres, il y a de l'histoire, il y a de la poésie. Si on comprend pas le genre littéraire du livre dans lequel on étudie, on risque de passer d'interpréter le livre tout croche, autrement dit. Ce qui est important de livre, par rapport au livre de l'Apocalypse, c'est qu'il y a trois genres littéraires là-dedans. D'abord, c'est une épître. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit une épître? Première épître de Paul aux Corinthiens. Une épître, c'est une lettre, pas compliqué, c'est une lettre que les auteurs des épîtres écrivaient aux églises. Quand on dit aux Corinthiens, ils écrivaient aux chrétiens qui étaient à Corinthe, aux Thessaloniciens, c'était aux chrétiens qui étaient à Thessalonique. Donc, c'était des lettres. Quand vous prenez à partir, vous avez les quatre évangiles, vous avez le livre des Actes, et vous avez toute une série d'épîtres. Donc, c'était des lettres que les apôtres écrivaient aux gens de ces différentes villes-là qui avaient des besoins particuliers. Parce que chaque épître que vous regardez, ils ont des besoins particuliers. Donc, le genre littéraire, avec l'Apocalypse est une épître, est aussi ce qu'on appelle une apocalypse. L'apocalypse, c'est un genre particulier, un genre littéraire particulier. Et c'est aussi une prophétie, comme ça nous le dit dans le verset 3, la prophétie. Prophétie, c'est des choses qui sont prédites sur ce qui va arriver. Le Seigneur est en train de dire à Jean, pour informer les églises de toutes les époques, qu'est-ce qui était pour arriver dans un but qui ne soit pas complètement désarmé quand les choses arrivent. Et on avait parlé la semaine dernière, on ne rentrera pas là-dedans, mais que le livre de l'Apocalypse est littéralement bourré de symbolisme. Il y a énormément de symbolisme. Si on essaye de comprendre l'Apocalypse et qu'on ne saisit pas le côté symbolique, on peut faire dire aux Écritures des choses complètement niaiseuses. Des fois, c'est un symbole, mais si les gens prennent ça au pied de la lettre, comme on dit, ça risque de faire dire des bêtises à l'Apocalypse. Alors, il faut saisir que le livre est très abondamment bourré de symbolisme, et que ce symbolisme-là, c'est pas un symbolisme auquel on peut donner le sens qu'on veut. C'est un symbolisme biblique. Comme je vous avais dit lors des dernières rencontres qu'on s'est parlé de l'Apocalypse, il faut bien connaître notre Bible si on veut interpréter les symboles correctement. C'est des symboles qui sont dans la Bible à partir de la Genèse. Et si tu sors trop du symbolisme de la Bible, le symbolisme de la Bible est précis. Mais plus tu connais ta Bible, plus ça va être facile d'interpréter. Et le problème, c'est que selon certains auteurs, notre problème moderne, c'est qu'on connaît pas assez notre Bible. Et c'est ça qui donne de la difficulté à notre compréhension de ce livre-là. Donc, on rentrera pas dans les détails ce matin là-dedans. Là. On avait vu aussi que l'Apocalypse a un thème. Et quel est le thème? C'est la victoire finale de Dieu. Quand tu regardes l'Apocalypse, le développement de l'idée qu'à l'intérieur de ça, c'est que Dieu va t'amener à la victoire. Et c'est aussi que Jésus-Christ est le maître de l'histoire. Moi, je trouve que, personnellement, là, j'ai, bien sûr, on sait que c'est le livre de la victoire finale de Dieu, mais de savoir que notre Sauveur, qui est ressuscité, qui est rendu au ciel, Dieu lui a confié la maîtrise de tout ce qui se passe sur la terre. De se faire rappeler ça, là. Quand on regarde que ce qui se passe au point de vue politique, économique, ça va mal partout. On est peut-être découragé, mais l'Apocalypse vient nous rappeler que le Seigneur, c'est lui qui envoie les événements, c'est lui qui les coordonne et c'est lui qui les contrôle, mais il les contrôle pas juste un petit peu, là. À la perfection, il n'y a rien de ce qui se passe sur la terre qui lui échappe et il n'y a rien qui n'est pas voulu par lui. Quand on se fait rappeler ça, là, on se dit, oh, je passe des affaires. Ça a l'air que c'est les hommes qui font toutes sortes de troubles un petit peu partout. Mais c'est le Seigneur qui sert des événements pour amener les choses à comme lui veut qu'ils arrivent. Et ça, on a besoin de ça, là, de se faire rappeler ça. Que le Seigneur est au contrôle, il est là. Et parce que des fois, on est porté à penser, coudonc, où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, là? On s'en va où ce que lui veut qu'on s'en aille. Il contrôle tout. Politique, économique, sociale, etc. Donc, on avait vu aussi que c'est un combat séculaire. Un combat, le livre de l'Apocalypse, ça raconte le combat qu'il y a entre Dieu et Satan, qui est là depuis le début, même bien avant ça, depuis la Genèse. C'est le déroulement de ce que Dieu fait entre le combat entre Dieu et Satan. Et on avait regardé la troisième idée qu'est-ce qu'il y avait de particulier. Donc, dans la théologie de l'Apocalypse, c'était un rappel et un élargissement des révélations qui étaient déjà données. On ne redonnera pas toutes les parce qu'il y en avait 16. Autrement dit, quand tu prends les grandes doctrines, toutes ces doctrines-là sont dans l'Apocalypse, mais Dieu veut nous les rappeler et Dieu veut élargir notre compréhension des choses qui sont déjà révélées dans d'autres livres ailleurs. On avait vu également, la dernière fois, l'interprétation de l'Apocalypse, les grandes écoles, l'école prétériste, l'école futuriste, l'école historique. Donc, prétériste, on est en train de dire, quand est-ce les événements qui sont dans l'Apocalypse, quand est-ce qu'ils sont arrivés? Il y en a qui répondent qu'au 4e siècle, tout était réglé, puis que c'est un livre qui parle juste du passé. Nous, on dit que c'est faux. Après ça, il y a l'autre école qui est très populaire de nos jours, qui disent que c'est des événements qui concernent uniquement le futur. Donc, les événements qui vont arriver juste avant que la Terre finisse. Et nous, on dit qu'on est de l'école historique. On rentrera pas dans les détails ce matin. Mais dans les écoles historiques, on voit qu'il y avait comme trois mouvements dans l'école historique. Et nous, on se situe dans le troisième mouvement. Le premier mouvement, c'était celui que l'Apocalypse, selon les réformateurs, Luther, Calvin et tout ça, eux disaient que l'Apocalypse, c'est un livre de l'histoire de l'Église. Et il y avait l'autre qui disait que c'est une histoire continue, donc c'était un précis de l'histoire de l'Église. Et il y avait la troisième école qui disait que c'était l'histoire du royaume. Et donc, c'était un livre qui est symbolique et qui nous parle de l'aspect spirituel du combat entre les forces du bien et du mal, et qu'on pourrait qualifier de livre de philosophie de l'histoire. Nous, je vous l'ai dit la semaine dernière, on était rendus là, là, c'est qu'on se sert, je me servis surtout de deux outils. Je n'ai plus que deux, là, mais deux en particulier. C'était le livre de William Hendrickson. Pourquoi je prends William Hendrickson? Parce que c'est un calviniste réformé et il a une bonne réputation dans la capacité d'interpréter les livres de la Bible. Il n'a pas écrit rien qu'un, là. Ben, il l'a écrit sur l'Apocalypse, qui s'appelle « Plus que vainqueur ». Certains d'entre vous en avaient une copie. Et je me suis servi aussi de Herman Oxema, qui a écrit « Behold, He Comes, an Exposition of the Book of Revelation ». Moi, je vais me servir surtout de cet auteur-là, parce que je l'ai lu au complet, et je trouve que c'est celui qui donne une image de l'ensemble du livre qui est le plus satisfaisante à ma compréhension. Donc, on va se servir de ces deux auteurs-là qui se situent dans l'explication de l'Apocalypse comme étant une école symbolique ou spirituelle qu'on appelle l'école de la philosophie de l'histoire. Donc, on était rendu là. Maintenant, on va regarder un petit peu la valeur actuelle du livre. On était rendu là au cinquième point. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que le livre de l'Apocalypse est un livre de la philosophie de l'histoire? Quand vous regardez l'histoire des hommes, à partir du début, à venir jusqu'à aujourd'hui, une philosophie, ça veut dire comment je peux comprendre ce qui se passe. Ça veut dire la Bible nous donne comment on se doit de comprendre ce qui se passe sur la Terre au point de vue historique. Donc, c'est un livre qui donne une philosophie de l'histoire. William Hendrickson dit que le livre de l'Apocalypse nous donne une philosophie de l'histoire, et lui, il dit que c'est la vraie. Je crois que je suis parfaitement d'accord avec lui, parce que le Seigneur est en train de nous montrer qu'est-ce qui va se passer sur le long terme, jusqu'à la fin. Et ça nous donne un sens, ça donne un sens à l'histoire. Tout ça, ça s'en va dans une direction. Alors, il nous révèle les principes qui régissent la conduite des hommes et la conduite de Satan. Ensuite, ça nous donne comment Dieu, du haut du ciel, gouverne tout ce qui se passe sur la terre. Et aussi les principes que les faits ne cessent de nous confirmer. Autrement dit, si on regarde les journaux, si on regarde la télé, on écoute la radio de ce qui se passe actuellement sur la terre, la Bible n'arrête pas de nous confirmer que le sens que l'Apocalypse donne à l'histoire humaine, ça tient debout. Ça tient debout, certain. C'est Dieu qui le dit. Alors, il y a un auteur qui s'appelle Allo, qui a résumé en 5 points les idées maîtresses de cette philosophie de l'histoire-là. Et c'est intéressant parce que quand tu regardes l'ensemble de ce qui est dit dans l'Apocalypse, lui, il a vu 5 grandes idées maîtresses là-dedans. Et vous allez voir que si vous arrêtez à l'étudier, le livre de l'Apocalypse, vous allez les voir, les 5 idées sont très présentes. La première idée, c'est que le ciel et la terre forment un seul monde, que Dieu gouverne du haut de son trône, disposant tout pour le bien des élus. On la reprend. Le ciel et la terre forment un seul monde. Si vous regardez l'ensemble de ce qui est dit dans l'Apocalypse, vous allez voir que Dieu parle du ciel, il parle à la terre, vous allez monter du ciel à la terre. L'Apocalypse n'oublie pas qu'il y a deux mondes, le monde divin et le monde humain, mais qui sont continuellement en communication. Nous, on est portés à rester juste sur le monde d'en bas. On ne comprend pas qu'au-dessus, il y a quelque chose qui contrôle tout ça. Là. C'est ça qu'on oublie. Alors, la terre et le ciel forment un seul monde que Dieu gouverne du haut de son trône. La deuxième idée, les idées maîtresses de la philosophie de l'histoire de la Bible. Le Christ règne avec lui. Avec qui? Quand on dit avec lui, c'est avec le Père. Christ règne avec le Père dans son humanité glorifiée. Donc, quand il a été ressuscité, Il avait un nouveau corps et aujourd'hui, il est dans le ciel avec son corps et il est la deuxième personne de la Trinité et il contrôle, Dieu lui a donné le contrôle absolu de tout ce qui se passe à la fois dans l'univers et à la fois sur la terre. Et il mène d'une manière invisible sur la terre, parce que des fois, si on regarde la terre, on est-tu porté à penser que Jésus trouve un drôle? Des fois, on est porté à penser que c'est les hommes qui sont en train de tout mettre à l'envers. Mais Jésus est au contrôle. Et il peut s'assujettir. Qu'est-ce qu'on veut dire par s'assujettir? Ça veut dire que quand il dit de quoi, là, c'est ça qui se passe en terre. Ça, c'est important de se rappeler de ça. Alors, quand on dit il est prêt à s'assujettir tout par le glaive de sa bouche, autrement dit, le Seigneur contrôle ce qui se passe sur la terre par sa bouche. Il parle, puis ça se produit. Quand tu vois ça dans le livre de l'Apocalypse, c'est quelque chose qui nous rassure pas à peu près. La troisième idée, c'est que le dragon, ou Satan, il est inspirateur des divers agents de persécution. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? On veut dire qu'actuellement, on mercredi, des fois, on prie pour les personnes persécutées dans le monde. Il y a des personnes qui sont persécutées dans le monde, mais c'est qui est l'inspirateur de ces agents, Satan, ces agents? C'est pas lui qui fait ça directement, là. Il sert du monde pour faire accomplir ce que lui, il veut. Donc, brûler les chrétiens, les décourager, les faire abandonner leur foi, etc. Donc, il est l'inspirateur des divers agents de persécution, même s'il se sait virtuellement, mais Satan sait qu'il est perdant. T'es un loser, comme on dit. Mais, il sait, mais il est tellement orgueilleux qu'il n'abandonne pas son projet. Il continue de croire qu'il peut être le victorieux, qu'il peut avoir la victoire. Alors que, à la croix, ça s'est réglé, Christ est victorieux, et la signature de Dieu par la résurrection démontre qu'il est victorieux, et que nous, étant sur le bon bord, on est automatiquement des victorieux, nous autres aussi. Mais il mène un combat, qu'on pourrait dire, d'arrière-garde désespéré. Il est comme désespéré, il sait qu'il va perdre, mais c'est un peu comme des fois, des êtres humains, on en voit des fois, des personnes qui ont perdu, là, qui veulent pas dire qu'ils ont perdu, qui veulent pas l'avouer qu'ils ont perdu. Là. Mais l'histoire va nous démontrer que ce que Dieu a dit, que c'est un loser, c'est un perdant. L'histoire va nous démontrer que c'est réel. Et la quatrième idée, c'était que l'humanité a atteint les derniers temps qui sont mentionnés dans les prophètes et que le jugement du monde s'exécute déjà sous diverses formes. Très intéressant parce que là, il y a un grand mot qui a été utilisé, mais c'est pas, il n'y a pas un mot qui est ben épeur. Hein? C'est le mot « prodrome » du jugement général qui est à l'horizon. Quand j'ai vu ça dans un livre, j'ai dit « prodrome, qu'est-ce que c'est ça? » Donc là, j'ai pris un dictionnaire, j'ai fouillé, pour vous autres, pour vous dire c'est quoi un prodrome. C'est un fait qui présage un événement, qui constitue le début d'un événement. Alors, j'entendais quelqu'un qui me disait que Dieu commençait déjà à envoyer des jugements, des grands vents, les tempêtes, les feux, tout ce qui se passe sur la terre, là. Le Seigneur est au contrôle de tout ça. Et quand on dit un prodrome, c'est que quand on regarde ce qui se passe sur la terre actuellement, c'est comme une annonce que Dieu est en train de dire, les jugements que je vous envoie là et que vous voyez, c'est rien comparativement au grand jugement qui s'en vient, qui va être beaucoup plus dévastateur que tout ce que vous voyez actuellement sur la terre. Et la cinquième idée maîtresse qui est dans c'est la Jérusalem nouvelle. Donc c'est la cité du bonheur divin qui est une réalité actuelle et que ses portes sont ouvertes encore aux hommes à qui Dieu va accorder la grâce. Donc en un mot, l'enseignement du livre est l'actualité du règne de Dieu et du Christ qui surmonte les dernières et violentes résistances de l'ennemi vaincu. C'est important de réaliser qu'il y a un combat qui se continue, mais il est déjà vaincu. C'est pas on va savoir un jour s'il va être vaincu. On le sait déjà qu'il est vaincu. Lui-même le sait, mais il n'abandonnera pas. Alors, c'est intéressant, il y a un nommé M. Boismard qui a dit « Jean s'intéresse aux deux périodes de crise durant lesquels l'Église est soumise à l'assaut de Satan. Les débuts, 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, il a attaqué très fort. Et il veut nous parler aussi de l'autre crise, les moments de crise qui vont avoir lieu. Ça va être le moment qui va précéder le retour de Jésus-Christ. L'Apocalypse nous parle de ces deux moments-là. Le moment où Satan a attaqué avec une force vraiment très forte au début. Et il veut nous parler aussi qu'il va attaquer aussi très, très fort quand il va sentir que son temps achève. Il reste plus. Ça le dit dans le livre de l'Apocalypse, la colère. Il va descendre puis il va être dans une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, intéressant de noter ça. Et autre idée qui, pour la valeur actuelle du livre de l'Apocalypse, c'est une vision optimiste de la fin de l'histoire. Donc, la Bible, l'Apocalypse nous montre que oui, ça va se terminer, mais c'est nous autres qui est victorieux. Et après ça, il y a des leçons. Et il nous reste à peu près juste ça, 10 minutes, pour regarder les principales leçons que le livre de l'Apocalypse nous enseigne. Et c'est ceux-là qu'il faut retenir, nous, au 21e siècle. Qu'est-ce que la Bible veut nous enseigner à nous? Tout à l'heure, on a lu le verset 3 du chapitre 1. Heureux celui qui lit, qui écoute et qui garde. Trois verbes. Écouter, lire, garder. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas juste écouter. Écouter, ça ne veut pas dire juste dire tu entends des sons. Écouter, ça veut dire que tu donnes un sens à ce qui est en train de t'enseigner dans le but de changer ta vie. Garder, c'est ça que ça veut dire. Tu gardes ce qu'il dit parce que tu sais que c'est ça qui va arriver. Il y a cinq leçons que les auteurs voyaient là-dedans, que je suis parfaitement d'accord que ces leçons-là sont présentes. Une leçon de reconnaissance. Reconnaissance, c'est que Dieu veut nous montrer qu'on est plus que content que le Seigneur nous ait accordé sa grâce et qu'on sait qu'on est des victorieux. Donc, une reconnaissance, ça veut dire « Merci Seigneur, je ne m'en irai pas dans le lac de feu ». Merci Seigneur, je vais vivre avec toi pour l'éternité. Une reconnaissance. Le livre devrait nous emmener de plus en plus à reconnaître que Dieu a fait des grandes choses pour nous et qu'il les fait encore. Deuxième leçon, vigilance. Qu'est-ce que ça veut dire, sois vigilant? Quand tu dis à quelqu'un, sois vigilant. Là. Il y a des dangers, ça veut dire fais attention. Eux vivaient à l'époque dans une société qui était littéralement inondé de mal, inondé de toutes sortes de péchés, de catégories. Et il disait, faites attention de ne pas vous laisser entraîner. Mais faut pas penser que ça l'a changé tant que ça depuis le 1er siècle. Encore aujourd'hui, on est littéralement enveloppé de mal qui cherche à nous emmener. Donc, nous aussi, la vigilance que Jean disait aux gens de l'Apocalypse, faites attention, ça s'applique encore à nous aujourd'hui. Plus que jamais, je dirais. Et la troisième leçon, une leçon de sainteté. Autrement dit, faites attention de ne pas faire de compromis. C'est ça que les chrétiens du premier siècle avaient tendance à faire. Ils avaient tendance à être dans des villes où ils étaient entourés de mal et à faire du compromis. Oh, ben tout le monde le fait, fais-le donc. Le Seigneur, il dit, fais attention. Ne fais pas, tout le monde le fait, fais-le donc. Ça ne t'autorise pas, à cause qu'il y a du mal autour de toi, à en faire toi aussi. Donc, une leçon de sainteté, on devrait jamais ne faire aucune concession, aucun compromis devrait nous être permis. Et il y a une leçon de constance. Autrement dit, si au 1er siècle, le Seigneur est en train de les avertir, faites-vous-en pas, mes amis, c'est pas fini. Vous avez encore un temps difficile à passer à travers. Ben nous autres aussi, on a une leçon de constance. Ça va continuer, les tentations autour de nous, et c'est pas fini. Constance, ça veut dire que dans le combat va durer et il va être difficile. Et la cinquième, c'est une leçon d'espérance. Parce que pourquoi? Parce que quand on lit le livre de l'Apocalypse, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est qu'il va être gagnant. Même pour les gens de l'époque qui ont été brûlés, les gens de l'époque qui ont été mangés par les lions. Le Seigneur disait, la seule chose qui détruit, c'est ton corps. Mais toi, là, si tu continues, puis tu persévères, puis en plus, il était soutenu par la grâce de Dieu dans ces affaires-là, si tu persévères, toi, tu vas aller au ciel pour l'éternité. Et ce que tu souffres pour moi, là, quand ça dit dans le livre, c'est incomparable avec ce que tu vas recevoir plus tard. Alors, pour les enfants de Dieu, le livre enseigne combien il est insensé de vivre pour des choses qui passeront rapidement. Il nous engage à témoigner auprès de ceux qui périssent. C'est ce qu'on veut faire dans les prochaines, plus que jamais. L'Église, comme Église, on veut s'engager à partager l'Évangile encore plus autour de nous. Et le livre aussi nous encourage à attendre patiemment le retour du Seigneur. Pour les incroyants, le livre de l'Apocalypse est un solennel avertissement du sort terrible qui attend ceux qui rejettent le Sauveur. Si quelqu'un lit l'Apocalypse et il n'est pas sauvé, puis il lit ça et il n'a pas peur, un jour il va comprendre et il va avoir peur. Il va vraiment avoir peur. Il va avoir peur pour longtemps. Alors le but de l'Apocalypse est de révéler le Christ comme Seigneur à une Église qui passe par la souffrance. On vit encore dans la souffrance à cause de notre foi. Mais c'est rien comparativement à certains autres pays où qui vivent beaucoup plus de choses bien plus difficiles à vivre que ce qu'on vit, nous. Alors, il y a trois applications que j'aimerais mettre. Les applications, c'est tout simplement, après avoir étudié l'Apocalypse, il y a des choses, applications, ça veut dire qu'on se doit de retenir les principes qui sont enseignés là-dedans et de les mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. La première application, c'est de réaliser que le livre de l'Apocalypse est d'une richesse inouïe. Ça, c'est pas peu dire. Quand on parle de quelque chose d'une richesse inouïe, ça veut dire on n'aura jamais, même si vous prenez, disons, vous allez dire, vous avez 50 ans, là, puis vous allez dire, bien, tout le reste de mes jours, là, à tous les jours, je vais mettre 5 heures d'études de l'Apocalypse, puis je vais finir par comprendre. Bien, tu n'auras pas fini parce que c'est infini. Une richesse infinie, c'est que, par définition, c'est infini. Alors, la Bible, ça, c'est une chose, faut prendre conscience de ça. La Bible au complet, mais le livre d'Apocalypse en particulier, est d'une richesse inouïe. Pourquoi? Parce qu'il nous dévoile qui? La glorieuse personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est comme si le Seigneur voulait nous dire, vous pensez que vous savez c'est qui Jésus-Christ? Je vais vous enlever le voile. Vous allez maintenant réaliser. Le livre de l'Apocalypse, c'est ça. Ça révèle qui est Jésus-Christ dans sa grandeur infinie. J'avais parlé du mot, là. Maintenant, j'avais vu ça dans un email. Quelqu'un m'écrivait, puis dans le bas de ses emails, il marquait Pentocrator. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut dire, lui, là, avec son Pentocrator? J'allais fouiller. Le mot Pentocrator, ça veut simplement dire il est le souverain universel. Ça veut dire quoi, souverain universel? Ça veut dire qu'il est le boss universel. Et quand on prend conscience de ce que ça veut dire, Pentocrator, il mène l'univers, pas juste la Terre, l'univers, ce qui se passe sur la Terre à tous les niveaux, politique, économique, social, au niveau des animaux, à tous les niveaux, quand on parle de Pentocrator, on parle du souverain, le grand boss, universel. Il n'y a rien que tu peux penser que le Seigneur n'est pas le maître. Alors, il contrôle de façon absolue tout ce qui se passe sur la terre et dans l'univers. S'il faudrait rentrer dans les détails, ce que je suis en train de vous dire, là, on en parlerait jusqu'à la fin de nos jours. Ah oui. Parce que il contrôle de façon absolue tout ce qui se passe sur la terre, bien entendu ce qui se passe dans vos vies personnelles. Et dans l'univers. Donc, l'étude du livre de l'Apocalypse nous fait découvrir Christ d'une manière exaltée. Ça veut dire quoi, exaltée? C'est que tu le vois d'une manière que tu ne l'avais jamais vu avant. Et d'une hauteur. Il te fait voir Christ d'une hauteur que tu ne l'avais jamais vu avant. Ça, c'est extraordinaire. Alors, l'étude de ce livre nous fait découvrir Christ d'une manière exaltée. Il est, et ça nous amène quoi? Quand ça dit dans l'Apocalypse qu'il y a des places, ça dit « Tu es digne d'adoration » et on en met, on n'en mettra jamais assez. il est vraiment digne d'adoration. Et autre chose qui est mentionnée dans le livre de l'Apocalypse, il veille jalousement sur son Église au niveau de la terre entière. Mais pensez-vous qu'il a oublié la petite Église de Nantes? Non! Il prend soin de nous aussi. Tu sais, juste le fait de se faire rappeler cette idée-là, là. Quand on dit « prend soin de l'Église », on est d'accord. Mais il prend soin de vous, personnellement, individuellement. Il sait ce qu'on est, tout le monde, puis il permet que les choses qui arrivent dans nos vies, c'est pour notre plus grand bien, pour nous faire ressembler davantage à Jésus-Christ. Il veille sur nous, et le mot est important, jalousement. Rien ne lui échappe. Très intéressant. Puisons-y de profonds encouragements en ces temps difficiles où le mal semble triompher. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Deuxième idée, deuxième application. N'oublions pas qu'une promesse est attachée à sa lecture de l'Apocalypse. Le verset parle de trois conditions à l'Apocalypse 1, verset 3. Lire, écouter, garder. Quand on pense à ça, juste ce petit verset-là, ça nous dit que lire l'Apocalypse est une source de bénédiction. Combien d'entre nous se disent « Ah, il y a une bénédiction là, ben, à partir d'aujourd'hui, je vais lire l'Apocalypse à tous les jours. » Il y a une bénédiction qui est rattachée, qui est bénie, qui est promise par Dieu. Pourtant, on le sait pas longtemps que j'ai eu ça, ce verset-là, vous autres aussi. Mais combien la prennent au sérieux? Quand Dieu promet qu'il y a une bénédiction à la lecture, à l'écoute et à garder ce qui est dans le livre, prenons le Seigneur au sérieux. Il en a une bénédiction. Mais en autant qu'on fasse les trois verbes qu'il dit. Lire, écouter, garder. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de cette prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Et la troisième application et dernière, l'Apocalypse, bien entendu, c'est une œuvre divine inspirée par le Saint-Esprit. Elle a pour but d'encourager et non pas de nous terroriser. Beaucoup de personnes aujourd'hui qui parlent de l'Apocalypse comme étant « c'est l'Apocalypse, et toutes les étoiles du ciel tombent. » Non! Le but de l'Apocalypse, c'est de nous encourager. Sachons mettre en pratique ces leçons. Il y en a plusieurs. Reconnaissance envers Dieu. Vigilance dans nos temps troubles. Besoin de sainteté, pas de compromis avec le mal, d'aucune forme, d'aucune, même si petit soit-il. Fais attention, ça va t'entraîner plus loin. Et le rejet de toute forme de compromis avec le mal. Et également notre besoin de constance malgré les difficultés et notre besoin de développer une espérance à toute preuve. On le sait qu'on est gagnant. Pourquoi on se devrait d'être découragé de ce qui se passe autour de nous? On est winner. On est des winners, comme on dit en anglais. Alors, que le Seigneur nous bénisse et nous console par une connaissance plus approfondie de ce livre, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.